La 7 vous offre l'heure.
À Radio Rythme Bleu, 6h30.
La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc.
Info matin, Nicolas Legrand.
Les responsables politiques calédoniens se succèdent dans le bureau du ministre des Outre-mer. Les rencontres bilatérales se poursuivent à Paris. Aujourd'hui, le rassemblement s'est entretenu avec Manuel Valls. Virginie Rufnacht sera notre invitée depuis Paris dès le début du journal. Une dépression tropicale bien plus faible que prévu. TD06F est actuellement à environ 200 km à l'ouest de Nouméa et continue sa route vers le sud-est. Privilégier la sécurité, la reconstruction et le vivre ensemble, ce sont les priorités du budget de la ville de Dimbéa pour 2025. Après le débat d'orientation budgétaire, le vote est prévu le 6 mars prochain. L'actualité nationale et les députés qui adoptent le durcissement du droit du sol à Mayotte, un texte porté par les LR dans le cadre de leur niche parlementaire. L'occasion, vous allez l'entendre dans ce journal, de vives passes d'armes. Du football avec les huitièmes de finale de la Coupe de France et Bourgoin-Jallieu, le club de National 3 qui reçoit Reims ce matin à partir de 7h. Reims qui évolue en Ligue 1. Le petit Pousset continue lui de rêver après avoir éliminé l'Olympique Lyonnais au tour précédent.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, puisque les entretiens s'enchaînent. Cette nuit pour nous, la délégation du Rassemblement, composée d'Alcide Ponga, de Virginie Rufnacht et de Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, a été reçue rue Oudinot par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Et pour en parler, je le disais, nous sommes en ligne avec Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès et membre de cette délégation au Rassemblement pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Bonjour Virginie Rufnacht.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct depuis Paris pour revenir sur votre entretien avec le ministre des Outre-mer. Alors vous avez aussi été reçu par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais d'abord, comment ça s'est passé avec le ministre des Outre-mer et quel message vous avez porté ?
Bah écoutez, ça se passe très bien avec le ministre des Outre-mer. Hein. Il est extrêmement engagé sur le sujet. Nous avons des entretiens particulièrement approfondis. Il est en présence systématiquement du conseiller du Premier ministre, Éric Thiers, qui connaît très bien la Nouvelle-Calédonie puisqu'il était à la commission des lois en 1998 et a participé à la rédaction de la loi constitutionnelle de l'accord de Nouméa. Donc, on a en face de nous des personnalités qui connaissent particulièrement notre dossier. Manuel Valls, évidemment, en tant que Premier ministre, l'a géré en direct. Et d'ailleurs, j'ai rappelé ce matin au président d'Assemblée, Brune-Pivet et Larcher, les déclarations que le Rassemblement, notamment au travers de Pierre Fauger, avait fait en 2016, alertant sur la tenue des référendums et les confrontations brutales que cela constituait et les risques encourus par la tenue de ces consultations. C'est que le Rassemblement a milité pour qu'on puisse trouver un accord en amont de ces consultations. Et vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien c'est celle que nous avions décrite le Rassemblement en 2016 lors du comité des signataires où Manuel Valls nous avait rassemblés.
Donc là, vous portez clairement un projet d'avenir institutionnel face au ministre ?
Alors, oui, bien sûr. Vous savez, nous militons pour deux choses. La première, c'est que certes, nous n'avons pas souhaité ces référendums, mais ils ont eu lieu. Et donc, leurs résultats s'imposent. Et ils s'imposent à tous. C'est-à-dire que les Calédoniens, par trois fois, ont choisi de rester français. Ont choisi que la Calédonie demeure au sein de la République française. Et cela doit être respecté parce que c'est un fait politique et démocratique. Donc ça, notre délégation, le Rassemblement, c'est ce qu'elle porte. C'est le premier pilier. Le second pilier, eh bien, c'est le fait que nous voulons revenir à une gestion comme en 88, avec beaucoup plus de compétences dans les provinces. Nous voyons bien, nous n'avons pas les mêmes modèles au nord, aux îles, au sud. Il faut donner cette souplesse institutionnelle pour cesser de nous battre entre les provinces, mais qu'il y ait finalement cette liberté d'organisation qu'il y avait en 88 et qui avait donné un véritable développement pour la Nouvelle-Calédonie, qui a été particulièrement freinée après 98. À partir de 98, une grande migration de la population du nord et des îles vers le sud, alors que l'esprit, en fait, des accords était de précisément fixer les populations dans leurs provinces respectives. Voilà. Donc c'est ce que nous défendons devant le ministre, encore une fois, avec une grande attention de sa part. Ce qui a été marquant ce matin, et en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une volonté de la part du ministre, et il faut le dire aux Calédoniens, de les protéger. De les protéger, je pense qu'à Paris ici, vous savez que nous avons aussi, avec Alcide Ponga et Pascal Vittori, rencontré le ministre de l'Intérieur, rencontré différentes personnalités de haut rang. Tout le monde sait que la population calédonienne a vraiment morflé. voilà, et qu'elle est meurtrie aujourd'hui. En tout cas, c'est le message que nous défendons. Une population qui est en grande souffrance. Et l'État ne doit pas se contenter... Alors, nous avons besoin d'argent, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que l'État, la France, traite correctement la Nouvelle-Calédonie, s'occupe de nous et de ces Français du Pacifique que nous sommes, qui, pour certains... Nous sommes battus pour rester français, en tout cas à trois reprises ces dernières années.
Et c'est ce que vous allez redire, Virginie Rufnak, au cours d'un deuxième entretien. Il est fixé cet entretien avec les loyalistes ?
Oui, alors nous, c'était déjà le deuxième entretien que nous avions ce matin. Hein. Nous avons déjà été vus deux fois par Manuel Valls. Et là, ce sera un troisième entretien que nous avons absolument souhaité avec nos partenaires loyalistes. Vous savez que le projet d'avenir, nous travaillons complètement en commun. Hein, pour ceux qui pourraient croire que nous sommes divisés, ça n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Et donc nous sommes totalement sur un travail commun. Nous sommes dus une journée entière de travail à Paris, à l'Assemblée. Et nos discours et ce que nous proposons, tout ce que nous proposons est totalement en phase. Et donc oui, bien sûr, nous avons souhaité être vus ensemble. Ça nous paraissait totalement cohérent. Et nous aurons cette rencontre samedi après-midi avec les loyalistes et donc Rassemblement Loyaliste unis dans cette vision d'avenir où nous avons besoin de rassembler nos forces, effectivement.
Et après notamment les déclarations du député Emmanuel Tchibaou à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que des réunions tripartites pourraient avoir lieu dans les prochains jours ?
Écoutez, les paroles de chacun les engagent. Moi, ce que j'ai rappelé ce matin, c'est que il n'y a pas d'avenir pour les Calédoniens si nous ne trouvons pas de solution. Et je crois encore que nous sommes capables de nous hisser à la hauteur de nos prédécesseurs et de trouver ce chemin d'avenir et de donner des raisons d'espérer aux Calédoniens, ce qui est notre devoir. Maintenant, j'ai dit aussi, pour notre délégation ce matin, lors de la déclaration que j'ai prononcée devant les deux présidents d'Assemblée, que si nous ne parvenions pas à cet accord, si nous n'y parvenions pas, eh bien à ce moment-là, nous demandions à l'État de poser sur la table un projet pour les Calédoniens et de leur soumettre. Et à ce moment-là, que l'État soit en capacité de proposer un projet directement aux Calédoniens. On ne peut pas rester éternellement à la recherche d'un consensus introuvable. Ça n'est pas possible. Les Calédoniens méritent qu'on dégage leur avenir, qu'on dégage l'horizon de leur avenir. Ils ont besoin aujourd'hui d'être rassurés. Et finalement, dans l'entretien avec Manuel Valls et Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre, c'est ce qui nous a aussi rassurés. Je crois qu'il y a une volonté à Paris de sécuriser les Calédoniens et de leur apporter effectivement des raisons d'espérer. Nous sommes très vigilants et c'est ce que nous allons défendre ici jusqu'à la fin de cette période de discussion à Paris.
Merci beaucoup Virginie Rufnak d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup à vous et aux Calédoniens.
Merci, bonne soirée à vous en direct de Paris, donc chef du groupe Rassemblement au Congrès. Et après le rassemblement, la délégation de l'UNI, composée de Jean-Pierre Djaïwé, Adolphe Digoué et Victor Tutugoro a été reçue à son tour. La délégation Calédonie Ensemble et celle de l'Éveil océanien auront elles aussi des échanges avec le ministre des Outre-mer. Et puis je rappelle qu'un forum économique est organisé demain à Paris, dans le cadre toujours de ces discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, vont recevoir à Bercy dès 18h demain soir pour nous les représentants politiques, mais aussi les acteurs du monde économique et social en Nouvelle-Calédonie. L'objectif, c'est de permettre des échanges sur la situation économique et financière du territoire. Les maires de l'agglomération et certains acteurs, notamment de l'économie, y participeront depuis Nouméa en visioconférence.
Radio Rythme Bleu, 6h39.
Dans le reste de l'actualité ce matin, cette dépression tropicale qui a été plus faible que prévu la nuit dernière. Le renforcement du vent est tout de même attendu dans la journée, Léo Fichou.
Oui, TD06F est actuellement environ 200 km à l'ouest de Nouméa et continue sa route vers le sud-est. La nuit a été effectivement plutôt calme sur l'ensemble du territoire. De la pluie tout de même sur la côte est et sur l'île des Pins. Le point sur la situation avec David Esposito, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Il va continuer de se rapprocher de la pointe sud qu'il abordera à la mi-journée avant de s'évacuer par l'île des Pins, puis au sud de l'île des Pins en cours d'après-midi. Donc on a essentiellement eu la nuit dernière des fortes averses sur le sud-est, avec notamment environ 100 mm en 12 heures sur Vaurindy et La Winée. Le renforcement du vent est attendu par contre en cours de matinée et cet après-midi.
Peut-être un petit coup d'ouest en fin de matinée, de la pluie aussi dans la journée ?
Oui, en effet, même si la dépression ne va plus s'intensifier, elle représente encore un danger aujourd'hui pour les activités à l'extérieur, en particulier les activités nautiques avec ce renforcement en cours de matinée du vent de secteur nord-ouest On a déjà d'ailleurs des rafales à 30-35 nœuds sur le nord, l'est et les Loyautés. Puis ce vent va se renforcer sur l'ouest de la pointe sud, puis l'extrême sud des marais, où l'on attend un vent de secteur nord-ouest jusqu'à 30 nœuds en moyen, avec des rafales de 40 à 45 nœuds, soit à 85 km/h. Donc il faut faire très attention, il ne faut même pas sortir en mer surtout.
Et les prévisionnistes de Météo France Nouvelle-Calédonie annoncent d'ores et déjà l'arrivée d'une troisième dépression tropicale faible dès la fin du week-end.
On termine avec vos rendez-vous sur Radio Rythme Bleu. C'est Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de l'économie, du commerce extérieur et de la fiscalité, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et sur les mesures envisagées pour y faire face, mais aussi sur la table ronde qui doit se tenir demain à Bercy et sur les aides de l'État. Christopher Gigès, invité de Transparence, une interview à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis notez que Catherine Riss, la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, sera notre invitée ce matin à 7h30, l'occasion de dresser avec elle le bilan de l'année 2024 de l'UNC et de présenter les perspectives de cette nouvelle année universitaire qui a débuté ce lundi sur les campus de Bakou et Nouville. Catherine Riss, invitée du matin, c'est tout à l'heure, donc à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h42, on va marquer une première pause publicitaire, puis ce sera l'actualité en métropole avec notamment ces vifs débats autour du droit du sol à Mayotte à l'Assemblée nationale.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 1er février, c'est la rentrée des prix. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est à 7900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katawiti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Vous croyez que ce n'est que dans les contes de fées que les anciennes voitures se changent en Mini ? Vous avez tort. La preuve, jusqu'au 28 février, c'est les jours Very Mini chez Prestige Motors. Et pendant les jours Very Mini, pour l'achat de la Mini de vos rêves, Mini reprend votre ancien véhicule au prix Argus plus 400 000 francs. Une reprise au prix Argus plus 400 000 francs ? Non, non, ce n'est pas un conte de fées.
Alors, quelle Mini allez-vous choisir ? La Mini 3 portes ? La Mini 5 portes ? La Mini cabriolet ? Ou la Mini Countryman hybride rechargeable ?
Eh oui, c'est un grand jour pour s'offrir une Mini. Profitez-en dès aujourd'hui chez Prestige Motors au 6e kilomètres.
Offre valable jusqu'au 28 février 2025 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité en métropole et des débats plus qu'animés à l'Assemblée nationale. Les députés se sont penchés sur le durcissement du droit du sol à Mayotte. Dans le cadre de la niche parlementaire des LR, le texte est débattu à l'Assemblée et au Sénat aujourd'hui. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Oui, dans un hémicycle presque plein, mobilisé pour débattre de cette question brûlante du droit du sol à Mayotte. L'ensemble de la gauche aura manœuvré tout au long de la journée pour empêcher à tout prix d'arriver au vote. Entre rappel au règlement et suspension de séance, la France insoumise enchaîne les invectives et les interpellations violentes et personnelles. Sébastien Delogu, député insoumis des Bouches-du-Rhône.
Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoufa. Où étiez-vous pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons? Où étiez-vous?
Face à lui, Estelle Youssoufa, députée de Mayotte s'enflamme.
Pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. On a tout perdu et vous, vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence? Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre? Non mais vraiment, quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores.
Si l'article unique concernant la restriction du droit du sol a déjà été adopté, les tensions ne retombent pas pour l'instant. Malgré tout, la proposition de loi doit être adoptée à son tour d'une minute à l'autre, grâce aux voix du Bloc central, des Républicains, mais aussi du Rassemblement national, qui souhaite de son côté une suppression totale du droit du sol dans l'archipel.
Mayalène Trémollet pour Europe 1. L'actualité judiciaire est ce coup dur pour le ministre de l'Intérieur. Le tribunal administratif annule l'OQTF de l'influenceur Doualemn. Il est accusé de provocation à la haine dans ses vidéos. Il avait été expulsé en Algérie, puis renvoyé par Alger le soir même. Depuis, il était dans un centre de rétention administrative, un CRA, et il va donc être libéré. Mais que dit exactement le tribunal, Jacques Serret ?
Eh bien, pas grand-chose. Ce jugement du tribunal administratif de Melun tient sur deux pages. Europe 1 a pu consulter ce document. Il est rendu, comme c'est l'usage, je cite, « au nom du peuple français ». Le magistrat rappelle simplement les différentes requêtes des avocats de l'influenceur Doualemn. Ceux-ci demandaient l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, réclamaient une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pour leurs clients, ainsi que le versement d'une somme de 1500 euros. Et leurs vœux ont été exaucés. Sans même se justifier, le magistrat du tribunal administratif de Melun annule l'OQTF édicté la semaine dernière par le préfet de l'Hérault. Il enjoint ce même préfet de munir sans délai l'influenceur d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois. Enfin, ce jugement indique que l'État versera à Doualemn la somme de 1200 euros. Autrement dit, toutes les demandes ou presque de l'influenceur sont suivies par ce tribunal. Un désaveu total pour Bruno Retailleau. Toujours selon nos informations, le ministère de l'Intérieur fait appel de ce jugement.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Toujours dans l'actualité en métropole, l'actualité nationale, on a appris hier soir le décès de Paul Lussulitzer. L'écrivain aux 50 millions de livres vendus est décédé à 78 ans à l'île Maurice. Il venait de s'y installer. Paul Lussulitzer connaissait également bien la Nouvelle-Calédonie pour s'y être installé il y a une quinzaine d'années.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h46.
L'actualité à l'étranger maintenant, après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de futures libérations d'otages. La question c'est maintenant, quelle solution pour l'avenir de Gaza ? Après la tonitruante annonce de Donald Trump de faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur du Proche-Orient, les autorités israéliennes proposent aujourd'hui une autre méthode. Et ce qu'ils suggèrent aux Gazaouis, c'est un départ volontaire. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, c'est ce qu'affirme le ministre de la Défense, Israël Katz, qui a ordonné à l'armée de mettre ce plan sur pied. Selon lui, il permettra à tout habitant de Gaza qu'il souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir. L'armée travaille donc sur différents scénarios pour proposer des options de sortie de Gaza, alors que l'enclave est totalement isolée et que ses habitants ne peuvent plus en sortir depuis le début de la guerre en octobre 2023. Des options de sortie au point de passage terrestre, d'abord probablement ceux donnant sur l'Égypte, comme celui de Rafah. Le ministre de la Défense israélien n'a toutefois pas précisé s'il serait possible de transiter par Israël, et c'est un point important alors que le seul aéroport de Gaza a été détruit au début des années 2000. Reste à savoir si les Gazaouis décideront de quitter l'enclave palestinienne ravagée, on le rappelle, par les bombardements israéliens. L'annonce de ce plan intervient aussi 2 jours après la proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de Gaza, et le président américain persiste et signe aujourd'hui la bande de Gaza pourrait, dit-il, être remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats, tout en assurant qu'il n'enverra pas de soldats dans la région.
Et le Hamas, par le biais de son porte-parole, appelle à la tenue d'un sommet arabe en urgence. Il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité sur le territoire, ce sera juste après la publicité avec notamment le conseil municipal de Dimbéa qui était réuni hier soir pour son débat d'orientation budgétaire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Trécodex s'engage à vos côtés. 40% des déchets plastiques sont des déchets à usage unique. En 2040, leur production devrait doubler. Pour protéger notre île, la province sud a réglementé la nouvelle filière REP de collecte et traitement des déchets d'emballage. Trécodex et ses producteurs adhérents se mettent en ordre de marche pour le lancement de la filière. Entreprises, consommateurs, ensemble, agissons. Pour plus d'informations, Trécodex au numéro vert 05 28 28 ou sur trécodex.nc.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés.
Vous cherchez votre futur chez vous ? Caillard et Cadour Immobilier a ce qu'il vous faut. Ne manquez pas la journée portes ouvertes à la résidence Le Lys Rouge ce samedi 8 février de 8h à 12h30. A cette occasion, profitez d'un mois de loyer et des frais d'agence offerts. F2 simple ou en duplex et F4 de standing, venez les visiter, rêver et imaginer votre nouveau chez vous. Plus d'infos sur Facebook ou au 24 24 24.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Et retour tout d'abord sur ce drame avant-hier soir à Païta. Une jeune mineure a perdu la vie, fauchée par une voiture conduite par un membre de sa famille près du cimetière de la commune. Aux alentours de 19h20, un homme de 31 ans raccompagnait chez elle la jeune fille de 16 ans avant qu'elle ne décide finalement de rentrer à pied. Le suspect a pris sa voiture et a percuté la victime dans des circonstances qui restent floues. L'enquête devra les déterminer avec précision. Le décès de la jeune fille a été constaté vers 23h, malgré l'intervention des secours. L'homme qui avait pris la fuite après le choc s'est rendu à la brigade de gendarmerie quelques heures plus tard, accompagné de sa famille. Il a été placé en détention provisoire et des dépistages ont été effectués par les forces de l'ordre. L'actualité institutionnelle maintenant, beaucoup de débats hier soir pour le premier conseil municipal de l'année à Dimbéa. Une séance importante puisqu'il s'agissait du débat d'orientation budgétaire. L'exécutif a présenté les grandes orientations pour la ville, Léo Fichou.
Pendant plus d'une heure, les élus ont débattu des axes à prioriser dans ce budget très difficile à construire. La commune fait face à une baisse de sa trésorerie importante et aussi à l'incertitude quant aux recettes dont elle disposera pour cette nouvelle année. Une chose est sûre, pour l'ensemble du conseil, l'aide de l'État est nécessaire pour envisager l'avenir, mais aussi pour entamer les travaux de reconstruction dans la commune. Les chantiers des écoles Jacques Minguet et Louise de Grélan sont notamment prioritaires, comme l'explique le maire de la ville, Johan Lecourieux.
Oui, il est difficile actuellement de construire un budget pour la commune de Dimbéa, car nous n'avons pas les principales recettes, notamment celle de la Nouvelle-Calédonie, tenant compte de voir si l'État va accepter de compenser la perte fiscale du fait des émeutes de l'année dernière. Et donc, il est important, si l'on veut construire un budget, d'avoir ce renseignement. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va, dans le budget de l'annexe de répartition, par l'aide de l'État, compenser la perte fiscale à une certaine hauteur qui permettra aux communes en général et en particulier à Dimbéa de construire son budget? De nombreux représentants du gouvernement de la République ont indiqué que la priorité était la reconstruction des établissements scolaires. À ce stade, nous n'en avons toujours pas eu la certitude. Nous avons raté la rentrée 2025 et j'espère pas que nous allons rater la rentrée 2026, car cela va poser problème. Et donc, nous avons besoin de cette aide, nous avons besoin du soutien de l'État et qu'il soit le plus urgent, rapide, car nous avons aussi des contraintes de temps dans la réalisation des travaux.
Et malgré ces difficultés, le Conseil a tout de même dessiné des grands axes d'orientation budgétaire avec une priorité accordée à la reconstruction, la sécurité des Dimbéens, mais aussi au vivre ensemble. Johan Lecourieux.
Nous avons prévu de poursuivre un chantier de reconstruction, c'est-à-dire des investissements pour permettre de reconstruire ce qui a été détruit et incendié, et aussi de renforcer la sécurité avec le remplacement des caméras de vidéoprotection, ainsi que l'amélioration du centre de secours et d'incendie, et bien sûr l'inauguration et la réception du nouvel hôtel de police qui maintenant devient nécessaire en ayant perdu le dernier hôtel de police dans un incendie. Et nous aussi, nous avons décidé, nous proposons à l'ensemble du Conseil de pouvoir poursuivre des actions de vivre ensemble, des actions de société sur l'ensemble de la commune, en maintenant un niveau d'aide acceptable au niveau associatif, en maintenant une aide financière au CSAS, aussi qu'à la Caisse des écoles, et de poursuivre aussi un certain nombre d'actions phares, telles que la fête de la ville, ou fêter la 10e édition du Big Up Day, qui met en valeur l'ensemble des cultures urbaines.
Sur un point sur lequel il n'y avait pas débat, la reconstruction nécessitera l'aide de l'État. C'est ce que souligne Xavier Rossard, membre du groupe Dimbéa Intègre.
Écoutez, ce débat d'orientation budgétaire, il nous met face au mur, puisqu'on découvre qu'avec 25% de recettes fiscales en moins, il va falloir qu'on fasse mieux. Voilà, des choix difficiles à faire pour la collectivité. Nous, ce qu'on note quand même, c'est qu'on se félicite que grâce à différentes interventions de notre groupe, la sécurité soit revenue au centre des priorités de l'exécutif municipal. On va réinstaller des caméras, on va enfin se doter d'un hôtel de police. Et donc on se félicite de ce choix parce que si on veut reconstruire Dimbéa, il faut que ça passe d'abord par le retour de la tranquillité publique pour refaire venir des investisseurs, refaire venir des gens à Dimbéa. Et donc c'est la priorité des priorités. Et on espère que maintenant ça va se traduire dans les faits, dans le prochain budget qui sera examiné avant fin mars.
De son côté, le groupe Génération Dimbéa a notamment porté la question du revivre ensemble après le 13 mai dans les débats. Cynthia Jean s'interrogeait notamment sur les financements de certains dispositifs passés qui n'ont pas empêché la crise insurrectionnelle et les violences dans la commune. Le vote du budget de la commune de Dimbéa se tiendra, lui, lors du prochain conseil municipal de la ville. Ce sera le 16 mars prochain.
Et hier, lors du conseil municipal, le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux, a annoncé le décès de l'un de ses prédécesseurs, Bernard Maran, qui a été maire de Dimbéa durant 25 ans, de 1983 à 2008. Les gendarmes pleinement mobilisés au Mont d'Or pour permettre la circulation 24 heures sur 24 sur la RP1 à hauteur de la tribu de Saint-Louis. Un important dispositif reste mobilisé aux abords et dans la tribu. Hier, le général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, a fait le point sur l'engagement des forces de l'ordre sur la commune. Écoutez.
Sur 24 heures, la sécurisation de cette portion de route représente 350 gendarmes. Cet axe est tenu nuit et jour. Voilà.
donc à l'instant T, ça dépend des horaires, parce que nous avons adapté notre dispositif selon l'affluence du trafic. Ça dépend aussi de l'ambiance que nous ressentons, parce que nous travaillons étroitement pour connaître les tensions qui pourraient survenir. Mais en tout, c'est 350 gendarmes qui sont fixés sur cette mission de Saint-Louis. Il n'est pas question de redescendre ce niveau. Chaque incident est inacceptable, chaque jet de caillou est inacceptable. Mais il est vraiment important de reconnaître qu'il y en a de moins en moins et qu'aujourd'hui c'est l'exception, heureusement, parce que tout le monde a compris que c'était une impasse et que ces faits violents étaient d'une lâcheté sans nom, parce qu'agresser des vieilles personnes, des enfants par des jets de cailloux, c'est proprement lâche et scandaleux.
Le général de division Mathéos, commandant la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a obtenu sa troisième étoile depuis le 1er février dernier. Il s'exprimait en marge d'une double signature de convention pour lutter contre la délinquance et l'insécurité dans la commune. L'une met en place un nouveau protocole de participation citoyenne lancé en 2018. Il s'agit de citoyens référents de leur quartier qui ont pour mission d'informer les forces de l'ordre en cas d'événements suspects ou de troubles à l'ordre public. Et l'autre convention, signée pour une durée de 3 ans, vient formaliser les pratiques de coopération entre la police municipale et la gendarmerie nationale. Attention, il n'y aura pas de bus aujourd'hui et demain. Les équipes du SMTU préparent la mise en place du nouveau réseau Taneo qui entrera en service lundi prochain. Ces 2 jours vont être mis à profit pour faire des ajustements et les paramétrages nécessaires. De 30 lignes avant les émeutes du 13 mai, le nouveau réseau comporte 8 lignes qui seront disponibles lundi prochain, le 10 février. En bref, toujours dans le Nord, les pêcheurs professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils se posent la question, comment continuer d'exister sans subvention de la province Nord ? En effet, aucune subvention ne sera versée à la Fédération des pêcheurs de la province Nord, qui compte 60 membres. Une réunion de crise s'est tenue hier à Conné pour tenter de trouver des alternatives à cette aide. Ils espèrent avoir le soutien des institutions pour la poursuite de leur activité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Faut-il intensifier le dispositif de participation citoyenne dans les communes de l'agglomération ? Si vous pensez qu'il faut l'intensifier, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'au-delà de la situation météo actuelle, les difficultés et la désorganisation du transport aérien et maritime dans les îles sont dues à une mauvaise gestion. Ils sont 32% à penser que c'est une conséquence des émeutes de mai. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, avant de refermer cette page, je vous signale que c'est le dernier jour pour participer à notre grand jeu chance. Tentez de remporter un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offert par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM, un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Pour jouer, c'est facile, vous envoyez maintenant chance au 40-20. C'est 371 francs par SMS. Le tirage au sort aura lieu cet après-midi à 14h. Il est 6h58, on marque rapidement une dernière pause et on voit toute l'actualité sportive avec Léo Fichou.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducose, 27 74 20 ou sur Facebook.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite ? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on ouvre notre page sport avec du football. La suite et la fin ce matin des 8e de finale de la Coupe de France et Bourgoin-Jallieu qui peut peut-être créer un nouvel exploit, Léo Fichou.
Et oui, la Coupe de France, c'est la coupe de tous les possibles. On l'a vu avec les éliminations de 3 clubs de Ligue 1 lors de ces 8e de finale. Hier déjà, la victoire du stade Briochin-Saint-Brieuc, pensionnaire de National 2 sur Nice, club de Ligue 1, mais aussi celle de Guingamp qui évolue en Ligue 2 sur Toulouse. Et puis avant-hier, la victoire au tir au but de Dunkerque, club de Ligue 2 face à Lille. Alors pourquoi pas, ce matin, dans quelques minutes, à 7h, Bourgoin-Jallieu, club de National 3, peut rêver d'un nouvel exploit face à Reims, d'autant plus que les Isérois avaient battu l'Olympique Lyonnais en 16e de finale. Le match qui va débuter dans quelques instants. Et puis notez que le tirage au sort des quarts de finale vient d'avoir lieu. Le vainqueur de cette rencontre entre Bourgoin-Jallieu et Reims affrontera Angers au prochain tour. Les autres rencontres, Brest jouera contre Dunkerque, Cannes sera opposé à Guingamp et enfin Saint-Brieuc, donc je le disais, pensionnaire de National 2, affrontera le Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune à vent violent sur le sud-est, l'ouest, au sud de Conné, au Loyauté, puis sur la pointe sud et l'extrême sud. C'est un vent orienté nord-ouest, 20 à 30 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 45 nœuds, qui basculera au sud-ouest, sud, sud-est et l'extrême sud ensuite. Vigilance jaune également pour des pluies et des orages sur l'île des Pins, pour des averses parfois orageuses en milieu de journée et cet après-midi. Ce matin, la dépression circule au sud de la Grande Terre. Le temps reste maussade avec encore des pluies faibles, parfois modérées. Ce sera sur l'ouest, le sud et notamment sur l'île des Pins. Ailleurs, les précipitations sont plus rares avec de belles éclaircies qui se développeront. Le vent, lui, est orienté nord-ouest, donc sur toute région, entre 20 et 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds au Loyauté. Et ça sera plus au nord, donc il sera le plus faible, entre 15 et 20 nœuds, il sera orienté sud-ouest. Cet après-midi, la dépression commence à s'éloigner vers le sud-est de la Nouvelle-Calédonie. Nuages et pluies faibles, parfois modérées, prédomineront sur l'ensemble du territoire. Sur l'extrême sud et l'île des Pins, ces averses pourront être localement fortes, voire orageuse. Sur la pointe nord, l'est des éclaircies se maintiendront et les averses seront rares. Sur le sud et les Loyautés, le vent, lui, 20 à 25 nœuds jusqu'à 35 nœuds et voire 25 à 30 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 45 nœuds. Ce sera du côté de l'île des Pins et marée. Les températures, 28 à 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.